L'association Educachou présente votre émission sociale de proximité Babaco sur votre radio. Babaco vous accompagne dans votre quotidien à la découverte des initiatives et des actions solidaires dans les quartiers et les villes de La Réunion. Babaco se fait l'écho de vos projets, démarches et événements. Exprimez vos opinions, partagez vos doléances. Vous avez la parole avec Babaco. Vous êtes à l'honneur avec Babaco.
Auditeurs, auditrices, chers amis qui nous rejoignez, soyez les bienvenus. Vous êtes dans l'émission Babaco, votre nouvelle émission de proximité qui donne la parole à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Christelle Fournier de Éveillez-vous. Bonjour madame.
Bonjour Floris.
Alors merci d'être venue à Babaco pour parler un petit peu de votre activité. Pour commencer, de quoi allons-nous parler?
Eh bien, je suis thérapeute holistique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire thérapeute holistique? Ça veut dire en fait que je vais prendre en compte la globalité de la personne pour lui apporter du bien-être, du soulagement par rapport à ses problèmes de santé, ses problèmes émotionnels. Donc, une approche globale, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que je vais voir aussi bien l'aspect physique, donc les symptômes physiques, mais aussi l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique. C'est le fait de prendre tous ces aspects de notre personnalité qui va m'indiquer, me donner des informations sur, je dirais, les moyens que je vais utiliser pour amener la personne à se sentir mieux.
On va revenir pour nos auditeurs sur le thème de thérapeute holistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette expression?
Alors, holistique, ça veut dire globalité. Donc, quand on parle d'un thérapeute holistique, ça veut dire qu'il y a une approche aussi bien, on considère aussi bien le corps physique avec, ses douleurs, ses troubles, ses dysfonctionnements, mais aussi la partie émotionnelle qui est, en général, à 99% la cause de nos perturbations physiques, l'aspect psychologique, voilà, tout cet ensemble nous permet, voilà, de prendre en compte la personnalité dans sa globalité.
Madame Fournier, vous travaillez donc sur l'île de La Réunion. Ça fait combien de temps que vous exercez cette profession?
Alors, j'exerce cette profession depuis 2015 et je suis à La Réunion depuis 2021. Donc, ça fait 3-4 ans après. Voilà.
D'accord. Alors, pourquoi êtes-vous venue justement vous installer à l'île de La Réunion?
Alors, je suis venue par amour. J'irai un double coup de foudre par amour pour quelqu'un, mais aussi pour La Réunion que j'ai découverte à ce moment-là. L'amour est parti, mais moi, je ne suis pas partie. Je suis restée ici parce que vraiment, j'ai un vrai coup de cœur par rapport à cette île où je me sens pas chez moi, même si c'est pas là où je suis née, puisque je suis de la métropole.
Depuis quelques années que vous êtes à l'île de La Réunion, qu'est-ce qui vous a plu réellement ici, sur notre île?
Des fois, les coups de cœur, ça s'explique pas forcément, mais si je peux l'expliquer, ce que je peux expliquer, c'est la beauté des paysages, la nature. Moi, je suis quelqu'un qui est très proche de la nature. Et puis, le contact avec les gens, l'ambiance générale, où bien sûr, tout le monde a ses problèmes, comme partout, mais il y a une certaine détente. Enfin, je sais pas tellement quel mot mettre là-dessus. Il y a moins de stress, on ressent moins le stress, même s'il y en a, parce que j'ai des personnes stressées qui viennent me voir, mais on le ressent moins qu'en métropole. Donc, c'est un ensemble général, et puis le climat, évidemment, le fait de pouvoir aussi bien aller à la mer qu'à la montagne. Encore une fois, voilà, je suis très proche de la nature, donc moi, ça me plaît beaucoup aussi de pouvoir accéder à tous ces aspects sur l'île.
Est-ce que dans votre métier, justement, l'aspect nature a de l'importance pour les personnes que vous suivez?
Oui, bien souvent, je leur conseille selon leur capacité, bien sûr, au cas par cas, de ne pas hésiter à aller marcher, même autant vous-même, on a le parc des palmiers, sans faire de publicité, mais voilà, c'est un endroit où je vais souvent parce que on peut bien se détendre et en même temps être dans le mouvement, mais aussi à la mer, ou si on n'aime pas l'eau, parce que certaines personnes n'aiment pas l'eau, marcher un petit peu dans l'eau, sur la plage, et puis la nature nous ressource, le contact avec la nature, notamment aussi dans les forêts, les arbres, eux sont connectés au ciel et à la terre, hein, au ciel avec leurs branches et puis à la terre avec leurs racines. Et ça, c'est important aussi pour nous de retrouver notre ancrage. Souvent, on n'est plus dans cet ancrage. Alors, j'expliquerai peut-être ce que c'est l'ancrage. On est beaucoup dans notre tête à ruminer, beaucoup dans notre mental et n'est pas assez dans le moment présent, dans l'instant présent. C'est ça en fait l'ancrage, hein. C'est d'être dans le moment présent, dans ce qu'on vit là en ce moment et pas à penser à ce qu'on va faire demain ou ce qu'on aurait dû faire hier, qu'on n'a pas fait, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la nature. Même si là aussi le mental peut travailler, mais voilà, avec nos yeux, avec nos sens, on ressent ce qui se passe aussi au cœur de la nature, et ça nous aide beaucoup pour notre ancrage.
Pour les auditeurs qui vont nous rejoindre ou qui nous écoutent, alors ancrage, vous parlez de ramener les gens à prendre conscience et à vivre l'instant présent. En travaillant sur l'ancrage, ça permet aux gens qui ont des difficultés de personnel ou de stress, justement, de sortir de ces difficultés par cette prise de conscience, par ce que vous appelez l'ancrage.
Oui, tout à fait, parce que en fait, ce qui nous cause bien souvent des tensions physiques et des dysfonctionnements dans notre corps physique, c'est notre mental. Parce que notre mental se nourrit aussi de nos peurs. Et les peurs sont vraiment au cœur de nos problématiques. Parce que la peur, c'est une projection finalement dont le vecteur va être l'illusion. C'est-à-dire, on imagine qu'il peut nous arriver ceci, cela. Donc tout ça, c'est engrangé par nos expériences passées. On se dit, bah tiens, il s'est passé ça dans le passé. Donc si ça peut se reproduire. Donc on est vraiment dans l'imaginaire quelque part. Parce que c'est pas parce qu'une situation est arrivée dans le passé qu'elle va se reproduire. Donc ça, c'est tout un travail aussi personnel à faire sur soi pour sortir de ça. Et sortir de ses peurs, c'est très, très compliqué, surtout que c'est beaucoup généré aussi par la société dans laquelle on vit, par les médias, par... voilà. Et quel que soit aussi à l'école, ça commence à l'école. Enfin, après, il pourrait en parler pendant très longtemps. Donc, effectivement, être dans le moment présent le plus possible, eh bien, ça va nous empêcher de penser. Alors, on peut pas s'empêcher de penser, mais en tout cas de nourrir nos pensées. Je dis souvent à mes patients, voilà, s'il y a des pensées qui arrivent, voyez-les comme des nuages dans le ciel qui passent. Ne vous attardez pas dessus, laissez-les passer, mais n'allez pas voir ce qu'il y a dedans.
N'allez pas voir ce qu'il y a dedans, les effacer. Mais est-ce que ça peut arriver justement que les pensées soient aussi, elles aussi ancrées, que les gens n'arrivent pas à sortir du négatif de ces pensées, par exemple?
Oui, parce que c'est vraiment c'est compliqué, surtout quand on nourrit le même genre de pensée depuis des années et des années. Donc voilà, comme je disais, ça vient de nos expériences passées, bien souvent, de traumatismes. Donc tout le travail du thérapeute, ça va être justement de à la fois de libérer au niveau énergétique avec les outils, les techniques que j'ai avec moi, on va dire. Je pars souvent de caisse à outils. Qu'est-ce que je vais prendre dans ma caisse à outils en fonction des problématiques de la personne que j'ai avec moi. Voilà, je vais à la fois l'aider, l'accompagner en faisant ce travail énergétique avec elle, mais aussi en lui donnant des outils. Voilà, il y a des termes comme EFT ou les fleurs de Bach que certains auditeurs connaissent peut-être, qui vont être des outils d'accompagnement. Alors, c'est bien des outils d'accompagnement, c'est-à-dire que ça va aider la personne à faire le travail qu'elle a à faire sur elle. Donc, c'est là où le thérapeute, comme une béquille, hein, quand on se casse la jambe, on a besoin d'une béquille pour se déplacer au départ. Mais à un moment donné, la béquille, on n'en a plus besoin. Et le thérapeute est là aussi pour accompagner la personne pendant un certain temps. Ce temps est variable, bah, en fonction des gens, et puis de, voilà, il y a différents critères. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, cette personne, bien évidemment, n'ait plus besoin du thérapeute. Donc, c'est à la fois le travail énergétique. Quand je parle d'accompagnement aussi, c'est beaucoup dans la parole. Moi, je passe du temps dans mes séances, hein, une heure et demie, ça dépend. Parce qu'il y a une bonne partie ici d'échanges. Des fois, même il y a des personnes, c'est la première fois qu'ils vont poser des choses. Parce qu'en famille, des fois, on n'ose pas parler de certaines choses. Donc, voilà, c'est important pour moi aussi d'écouter la personne. Et l'écouter, ça va me donner beaucoup d'informations aussi sur... parce qu'il y a, ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Même dans les non-dits, on peut ressentir des choses.
Parliez justement du thérapeute qui accompagne... les personnes dans l'aspect physique et émotionnel. Est-ce que les deux aspects peuvent être liés, par exemple, si on prend l'exemple des personnes qui ont des douleurs, est-ce que les douleurs peuvent avoir une origine émotionnelle?
Oui, tout à fait. Elles peuvent avoir une origine mécanique. Par exemple, quelqu'un qui fait de la manutention et qui va se bloquer le dos. En même temps, il y a des personnes qui font de la manutention et qui n'ont jamais mal au dos. Donc, il y a bien effectivement ce lien entre l'émotionnel et le physique.
Prenons par exemple une journée type de votre travail. Comment ça se passe?
Eh bien, en général, je ne prends pas plus de 2-3 rendez-vous par jour parce que je préfère passer, comme je vous le disais, une heure et demie avec chaque personne. Et moi, j'investis aussi de mon énergie. Enfin, il n'y a pas de problème, hein, je garde mon énergie, mais mon but n'est pas d'enchaîner les patients. Donc, voilà, je prends 2-3 rendez-vous maximum par jour. Parce que c'est important aussi pour moi de garder mon énergie, de me ressourcer pour justement être au mieux avec mes patients. Voilà, je reçois les personnes soit à mon cabinet, soit chez elles quand elles ne peuvent pas se déplacer, parce que ça peut arriver. Et voilà, on commence par discuter, comme je disais, échanger, voir quelles sont leurs problématiques. Je leur donne des clés, des conseils, des fois des outils pour les aider. Et puis, je leur dis ce que moi, je vois comme soin pour elles, sans leur expliquer dans les détails, mais je trouve ça important aussi de leur dire, voilà ce que je vous propose, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et après, donc, on fait le soin sur la table de massage. Voilà, qui dure, après, ça dépend, hein. C'est au cas par cas, une demi-heure, par exemple. Et puis, ensuite, voilà, la personne prend le temps de revenir un petit peu à ses esprits, si je puis dire. Là, on fait ce qu'on appelle un débrief, c'est-à-dire qu'on voit comment ça s'est passé pour elle. Je lui propose de reprendre rendez-vous ou pas, selon ce que j'ai ressenti, et elle, ce qu'elle souhaite aussi, si elle souhaite poursuivre ou pas.
Éveil et vous, c'est le titre de votre société. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette appellation?
Alors, en fait, je me suis rendu compte, avant, je faisais des soins énergétiques, donc basés sur la médecine chinoise, l'équilibre des chakras, le reiki, qui sont différents moyens de rééquilibrer l'énergie avec des origines différentes. Et puis, je me suis rendu compte que quelquefois, les gens n'avaient pas forcément envie d'un soin et je pouvais passer l'heure, en fait, à échanger avec eux. Et que, donc, il y a aussi bien cet aspect-là que le fait que je me suis aperçue que, eh bien, c'est comme si des fois je semais des graines et que la graine, elle peut éclore ou ne pas éclore, tout est mort. Et donc, de plus en plus, je me rends compte que à ma manière et en toute humilité, je participais à l'éveil de la conscience de la personne. Parce que au fil des séances, je m'aperçois que la personne a compris certaines choses, qu'elle a un désir profond de changer certaines choses dans sa vie en étant vraiment active dans ce changement. Parce que moi, je suis là pour accompagner, mais c'est la personne elle-même qui fait le travail aussi pour changer les schémas qui sont répétitifs et qui ne sont pas bons dans sa vie. Donc voilà, c'est ces deux aspects qui m'ont amené à changer le nom de ma société.
Est-ce que dans vos clients, vous rencontrez beaucoup de gens justement qui sont dans ces difficultés liées au stress et à la peur?
Oui, c'est vraiment la grande majorité, hein.
OK.
Parce que, enfin, moi, je l'analyse comme ça. On est dans une société qui est très stressante. On le Covid, la période Covid. Alors là, ça a été le summum. Ça nous a vraiment renvoyé dans nos profondeurs, je dirais, hein. Et donc, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des stress. Voilà, ça peut être dans la relation, c'est relationnel hein, de toute façon. C'est la relation aux autres, que ce soit sentimentale, professionnelle, des fois avec la famille, hein, que ce soit les enfants, les parents ou les proches en général. Je parle des enfants, j'évoque les enfants, il y a du stress chez les enfants aussi. Et donc là, j'aime bien aussi travailler avec les enfants parce que ils ont moins empilé de couches. Et donc le travail est, je dirais pas plus facile, mais plus rapide parce qu'ils ont moins de choses, on va dire, à enlever. Et puis les enfants d'aujourd'hui sont plus éveillés encore que nous l'étions, nous, à notre époque. Oui, le stress est une grande partie
Niveau de travail.
de mon travail, effectivement.
Comment pourrait-on expliquer que les sociétés, la société, les familles, les enfants, que nous soyons dans un stress quasiment généralisé, on pourrait dire ça?
Alors là, après, ça va être ma propre conviction, mais voilà, je la partage si ça peut, si ça parle aux auditeurs, voilà. Pour moi, c'est une question de connexion. C'est-à-dire, là, on peut parler de connexion à soi-même, de connexion à notre âme, de notre connexion à Dieu, au divin. Bon, chacun émet ses termes. La plus grande peur qu'on ait, c'est la peur de mourir. Toutes les peurs qu'on a, si on va vraiment jusqu'au bout, bah, au final, c'est la peur de mourir, finalement. Et donc, on est dans une société où on nous a complètement écartés. Alors, moi, à l'île de La Réunion, ça, je précise, hein, parce que en métropole, alors, je ne vais pas parler de religion. Après, c'est sûr qu'il y a l'aspect religieux. Moi, je pense que dans toutes les religions, il y a du bon et du pas bon, parce que bah, ça a été aussi, comment dire, c'est des hommes, hein, en général, avec un grand H, qui portent les religions. Donc, forcément, il y a une part aussi de notre ego qui va là-dedans, de notre ego, de notre mental. Et les religions n'ont pas toujours fait que du bien, hein, on le voit bien. Donc moi je parlerais plus de spiritualité. Spiritualité, ça veut pas dire s'asseoir en tailleur et puis méditer toute la journée. Non, la spiritualité, c'est quoi? C'est se connecter à soi-même. Qui on est vraiment? Bah qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le but de ma vie? Là aussi, j'accompagne les gens qui viennent me voir des fois sur ce genre de questionnement. On a peur de manquer, on a peur de que l'autre nous juge. Du coup, on n'est pas du tout à notre place. On n'est pas du tout qui on est vraiment. Et quand on ose se départir de tout ça, et c'est pas facile, et notamment par rapport à la famille, par exemple, la peur d'être jugé par sa famille si on fait telle ou telle chose dont on a envie, mais la famille ou nos amis ne vont pas être d'accord avec ça. Eh bien, si on arrive à dépasser ça, peut-être qu'effectivement, il y a des portes qui vont se fermer, mais le plus important, à mon avis, c'est d'être à sa place, parce que si on n'est pas à sa place, on n'est pas bien. Toutes les personnes qui sont en dépression, c'est des personnes qui ne sont pas à leur place au niveau du travail, dans une relation sentimentale ou autre, comme je disais, quel que soit le type de relation. Donc, c'est pas évident, c'est tout un travail et je peux en parler parce que je l'ai fait, je le fais encore, hein, parce que le travail n'est jamais terminé. Mais c'est voilà, de se dire, bah, moi, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais pas à ma place, j'étais pas bien, j'ai eu des problèmes de santé. C'est ça aussi, petit à petit, qui m'a ouvert l'esprit ou reconnecté à ma vraie nature aussi, et qui m'a amené à réfléchir, bah, qui je suis, pourquoi je ne vais pas bien. Donc, j'ai été aidée aussi par des thérapeutes. Qu'est-ce que je fais perdre?
Votre émission sociale de proximité Babaco revient juste après la pause.
Thank you.
Pour être épanoui, il faut être à sa place. Donc être à sa place, c'est ben, si je ne suis pas bien avec quelqu'un, quelle que soit la relation, eh bien, je peux partir parce que ce n'est pas bien pour moi.
Souvent dans les relations, dans les problématiques de vie, justement, s'il suffisait de partir, je pense que bien des problèmes seraient résolus. Mais souvent, il y a cette difficulté à prendre conscience qu'il y a la possibilité de partir. Et après, il faut voir, est-ce que les gens ont la faculté de partir avec tous les aspects de vie qu'il y a autour de partir.
Tout à fait. Bah ça, je le comprends tout à fait. C'est tout ce qu'on va essayer. Je vais essayer de pas décortiquer, mais de voir avec le patient pour l'aider à cheminer. Alors moi, je vais pas lui dire, par exemple, c'est un exemple, hein, il faut quitter votre mari. Je vais pas lui dire ça. Je lui pose des questions. Qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce que vous apporte cette relation? Comment vous vous sentez? Même si déjà, elle a pu, cette personne, me dire certaines choses. Au niveau professionnel, c'est pareil. Combien il y a de personnes qui sont pas bien au travail? Qui sont en arrêt maladie? Qui sont... Ben voilà. Mais pourquoi la personne ne quitte pas son travail? Parce qu'elle a peur de manquer d'argent. Elle a peur de ne pas retrouver un autre travail. Tout ça encore, c'est la peur. Toujours la peur.
Toujours la peur.
Mais si on est à sa place, si on quitte son travail parce qu'on n'est pas bien, eh bien c'est juste. C'est juste pour soi. Ce qui n'est pas juste, par contre, c'est d'être toujours à son travail et de pas être bien. Si on n'est pas bien, c'est un indicateur. C'est notre corps. Notre corps nous parle, en fait. C'est une très, comme je dis, une machine formidable qui fait tout pour que nous restions en vie le plus longtemps possible. Mais c'est nous qui perturbons cette machine avec, justement, nos peurs, principalement, nos émotions. Alors, les émotions, elles sont là. C'est des indicateurs. À la base, elles sont tout à fait légitimes. mais voilà, quand c'est en excès, c'est là où ce n'est pas bon. Donc, faire des choix, c'est difficile. C'est sûr, le choix de quitter un travail parce qu'on n'est pas bien. Le choix... Alors, quitter un travail parce qu'on n'est pas bien, c'est une chose. Mais il faut travailler aussi sur soi. C'est-à-dire, si on quitte un travail et qu'on en retrouve un autre, et qu'on n'a pas compris en nous-mêmes pourquoi on n'était pas bien dans ce travail, on peut rejeter la faute sur le patron, sur le chef de service. Mais peut-être que dans cette relation, il y avait quelque chose à comprendre aussi. Par exemple, peut-être que on est trop dévoué, on en fait trop et qu'il faut pas en faire autant. Ou savoir s'affirmer aussi dans son travail. Vous voyez, c'est quelques exemples. Et là, si on a fait ce travail de compréhension, de questionnement et de compréhension de ce qui n'allait pas dans la relation avec le patron ou avec le conjoint, la conjointe, etc. Eh bien, quand on a fait ce travail-là, la relation professionnelle ou autre qu'on va avoir de nouveau ne sera différente. Alors, peut-être que tout ne sera pas parfait parce que, bah, voilà, on avance à petits pas, hein, on fait comme on peut et tout est bon. Mais, voilà, ça se fait dans le temps, mais ça se fait.
Madame Fournier, je souhaiterais aborder avec vous, justement, un petit peu avant la fin de l'émission. Alors, chez nous, un terme qui nous parle bien, c'est « barreur de feu ». Alors, pour nos auditeurs, quand on parle de barreur de feu, de quoi parlons-nous ?
Alors, en fait, le barreur de feu, c'est quelqu'un qui utilise le magnétisme qu'on a tous d'ailleurs hein, dans nos mains, mais après voilà, c'est quelque chose qui se travaille aussi, c'est aussi lié aussi à une connexion avec soi-même pour amplifier ce magnétisme. Ben moi en fait je ne savais pas que je le faisais déjà.
Oui.
C'est pour ça que je l'ai rajouté sur mon site internet et sur ma communication. C'est bon, il y en a qui vont parler de certains protocoles, chacun ses protocoles en réalité. Il y a toujours quand on fait un soin énergétique, du magnétisme ou barreur de feu, eh bien il y a toujours une intention, on met une intention. Et c'est ça en fait qui est important, c'est de mettre une intention, ben voilà, j'ai l'intention Je vais pas tout expliquer, mais voilà, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire avec la douleur, la brûlure. Ça peut être dans le cas de radiothérapie, à la suite de radiothérapie, ça peut être des douleurs, des brûlures, etc. Voilà, quelle intention je mets sur ce problème-là pour atténuer ou enlever, si c'est possible, parce que là aussi, c'est nous qui décidons, et en même temps, voilà, il y a d'autres interactions avec le divin. On peut faire appel à l'archange Michael ou à Dieu ou à qui l'on veut, selon ses croyances, pour atténuer la douleur, atténuer la brûlure ou l'enlever. Donc c'est un travail avec les mains, à la fois physique, je dirais énergétique avec les mains, mais aussi dans l'intention qu'on met dessus. Et voilà, pour faire ça, il faut être relié de toute façon, voilà, quelles que soient ses croyances, avec le divin ou une représentation divine.
Madame Fournier, éveillez-vous. Alors, notre émission arrive progressivement à sa fin. En quelques mots, pour nos auditeurs, si vous auriez un message à faire passer.
Prenez soin de vous, soyez vous-même, osez être vous-même. Vous verrez que, et je peux en parler, hein, si j'en parle, c'est que, voilà, moi aussi, hein, j'ai consulté des thérapeutes, des énergéticiens. Petit à petit, on fait des petits pas pour dépasser des peurs. Et puis, on voit qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a encore des obstacles, hein, bien sûr, mais les obstacles sont moins grands. On arrive à passer les difficultés. Donc, soyez confiants. À La Réunion, on est beaucoup dans la croyance en Dieu, hein, ou d'autres divinités selon les religions. Donc, soyez confiants. Oui, vous pouvez vous en remettre à vos croyances, mais aussi à vous-même. Soyez, je crois qu'on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut s'en remettre à Dieu, mais si on ne fait rien, bah, il ne se passera rien. Dieu attend aussi que nous, on soit dans l'action. Donc, il faut pour ça changer ces schémas répétitifs, oser sortir de notre zone de confort qui n'est pas toujours confortable.
En tout cas, Madame Fournier, nous vous remercions d'être venue dans notre émission Babaco. Merci pour ces précieux conseils, pour ce témoignage, pour le partage de cette expérience. Auditeurs, auditrices, vous étiez dans Babaco avec Éveillez-vous.
Ben, merci beaucoup à vous pour votre accueil et puis peut-être à bientôt.
L'association Éducachou vous a présenté votre émission sociale de proximité Babaco sur votre radio. Vous souhaitez participer à nos prochaines émissions? 06 93 53 05 10. 06 93 53 05 10. Plus d'infos sur babaco.fr et les réseaux sociaux. Vous êtes à l'honneur avec Babaco.